Vous êtes sur RTL.
mi.gouv.fr
Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous espère en forme ce samedi matin sur RTL bien sûr. Aujourd'hui nous sommes fleuris puisque nous nous trouvons à Chaumont-sur-Loire pour l'édition 2020 du magnifique, exquis Festival International des Jardins. C'est un havre de paix et de vermeil végétal à ne surtout pas manquer. De 9h15 à 10h, nous nous mettons donc au vert dans Nous voilà bien. Les fleurs embellissent notre environnement et concourent à notre bien-être. Alors comment fleurir son jardin et son balcon? Pierre Nesman, paysagiste de formation et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, va nous en faire voir de toutes les couleurs dans quelques instants. Quel plaisir et quelle satisfaction de manger ses propres légumes. Alors comment créer un potager dans un jardin ou sur un balcon? Thierry Denis, pépiniériste et chroniqueur RTL, nous met le pied à l'étrier. Saviez-vous qu'il existe des fleurs comestibles? Et c'est une fleur parmi les fleurs, Angèle Ferremac, chef et créatrice de la guinguette d'Angèle, qui nous explique comment les cuisiner. Pierre Nesman, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin.
C'est un grand plaisir.
Mais oui, et puis dans un cadre extraordinaire quand même, hein, oui. Que le domaine de Chaumont-sur-Loire.
Oui, c'est vrai qu'en tant que paysagiste, comme je le disais, c'est un endroit où on va se ressourcer, où on va glaner des idées. C'est très important ce lieu, tous les ans, de pouvoir y aller, à la fois en tant que jardinier, amateur de plantes et de jardins, mais aussi en tant que professionnel. C'est très riche.
Voilà, et pour tous les visiteurs également, parce qu'on s'enrichit au contact de cette nature et de ces artistes hein, qui, à un moment donné aussi, ont décidé de se marier avec l'environnement de Chaumont-sur-Loire. On le conseille à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes paysagiste, vous êtes diplômé de l'école d'horticulture de Genève. Alors, on va parler aujourd'hui des fleurs et du jardin. Quand on veut fleurir son jardin, on commence par quoi, en fait?
Les fleurs et les arbustes, ce sont des végétaux vivants. Donc, on va déjà prendre en compte l'environnement. L'environnement, c'est le climat, c'est le sol. On va aussi, pour les jardiniers, prendre en compte le temps qui est à disposition. Parce que, comme je le disais, c'est des êtres vivants qui ont besoin d'attention. Oui. Il va falloir les arroser, les soigner, les entretenir. Donc il faut du temps, il faut avoir du temps et on va adapter aussi son fleurissement au temps dont on dispose. Et puis après, il y a les végétaux. Ça, c'est la matière que l'on va travailler. Les arbustes, rosiers, hortensias. Et puis, bien entendu, toute une panoplie de plantes, de fleurs, des fleurs de saison et des fleurs vivaces. Alors les fleurs de saison, c'est les fleurs que l'on va planter pour l'été, pour l'automne ou pour le printemps. Et puis les fleurs vivaces, on en reparlera tout à l'heure, c'est pour les jardiniers un peu malins, un peu paresseux. Une fois qu'on les a plantées, on les laisse tranquilles, elles demandent très peu d'entretien.
D'accord. On peut avoir un jardin fleuri toute l'année, en fait, Pierre?
C'est le but du jeu. C'est le but du jeu, parce que c'est vrai que au printemps, évidemment, il y a des fleurs. En été aussi. En automne, il y en a un petit peu moins. Et puis très souvent, on se retrouve en hiver où il y a très peu de fleurs. Alors que dans les jardins, dans les pépinières, chez les horticulteurs, il y a des plantes fleuries qui s'épanouissent en hiver, des arbustes qui fleurissent en hiver. Et donc, c'est l'intérêt du jardinier, justement, d'arriver à couvrir, à échelonner toute l'année, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, avec des floraisons.
Aujourd'hui, on est dans un cadre absolument divin, artistique. Hein, je disais, le domaine de Chaumont-sur-Loire, c'est comme un tableau. Est-ce que la forme des fleurs, la couleur des fleurs, le volume des fleurs, c'est quelque chose d'important dans un jardin?
Exactement. Alors c'est très intéressant parce que vous dites comme un tableau, parce que moi je vais vous répondre en disant le jardinier c'est comme un peintre. Le peintre, il a sa palette de couleurs, le jardinier, il a une gamme et une palette de fleurs et de feuillages à sa disposition. Donc on va travailler de la même manière. Et sa toile, la toile du jardinier, c'est son jardin. Donc effectivement, on va jouer sur les formes des fleurs, les fleurs qui sont petites, les fleurs qui sont plus importantes, isolées, qui sont regroupées en nuées, vaporeuses, fluides. Mmh. On va jouer aussi avec les couleurs. Vous savez qu'il y a les couleurs froides et les couleurs chaudes. Alors les couleurs froides, c'est le bleu, le mauve, le rose. Les couleurs chaudes, c'est l'orangé, le rouge, le jaune. Et justement, on va commencer à créer ces mariages, soit des harmonies, quand on choisit la même palette de couleurs, soit des contrastes, quand on va opposer deux couleurs. Et le jardinier, comme le peintre, va pouvoir travailler avec toute cette matière.
Mais est-ce qu'il existe aussi des disharmonies dans les jardins? On a tous des envies différentes. Moi, par exemple, j'aime les jardins un peu fous, un peu punk et un petit peu bordéliques. D'autres ont envie d'avoir un jardin très propre. Est-ce que tout ça, ça se travaille? Est-ce qu'il y a des fleurs qui ne vont pas ensemble et d'autres qui...
En général, toutes les fleurs cohabitent bien et ça va dépendre effectivement du jardinier. Alors le jardinier un peu sauvage, il va s'accommoder de plantes un peu champêtres, un peu campagnardes. Il va laisser pousser son jardin et se développer un peu librement. Le jardinier un peu plus précautionneux, lui, il va effectivement faire des tailles un peu plus soignées, va soigner sa sa pelouse, tailler ses bordures, etc. Mais les plantes, elles sont très très faciles à vivre. Elles vont finalement s'adapter à tout cet environnement. Quand elles sont cantonnées, ben on va les cantonner, elles vont supporter la taille. Quand à l'inverse, on va les laisser pousser, elles vont se développer. C'est un peu à l'image du tempérament du jardinier, effectivement.
Et est-ce que c'est aussi à l'image du tempérament des fleurs? Est-ce qu'il, par exemple, il y a des plantes ou des fleurs qui vont bouffer plus d'énergie, je dirais, que leurs voisines?
Alors, en général, elles cohabitent au début. Elles vont toutes vivre ensemble quand on les plante dans son jardin. Et puis, progressivement.
Peace and love, quoi, au début.
Voilà, au début, tout le monde va bien. Et puis, au bout d'un moment, il y a effectivement celles qui vont prendre le dessus. Il y a les plus faibles qui vont un petit peu se retirer, qui vont se mettre en retrait parce que le sol, le climat, parce que l'environnement leur convient moins bien. Et puis, il y a celles qui sont des conquérantes, celles qui vont coloniser le terrain. Et alors là, c'est au jardinier après de mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que sinon, on va se retrouver avec deux, trois espèces.
Battle.
Alors qu'on en a peut-être planté beaucoup plus. Oui. Donc, il va falloir. Moi, c'est ce que j'appelle la nature jardinée. C'est-à-dire qu'on va laisser pousser les plantes, mais on va de temps en temps aller ciseler un peu comme un orfèvre, enlever des herbées, enlever des plantes qui sont un peu envahissantes, essayer de privilégier celles qui ont envie de pousser pour justement retrouver un équilibre et maîtriser cet équilibre.
Quelles sont les fleurs que vous nous conseillez?
Alors moi j'ai des coups de cœur. Hein. Les coups de cœur, c'est la verveine de Verbena bonariensis. Alors c'est que nous on parle latin. Et
oui, mais alors si vous pouviez nous parler français,
c'est la verveine de Buenos Aires. La verveine de Buenos Aires,
Argentine,
et cette verveine argentine, elle est très très jolie parce qu'elle a des petites fleurs en pompons violacées qui se développent au sommet de tiges avec le vent, ça bascule. Et surtout, ce que j'aime bien dans ces plantes, c'est qu'elles se ressèment toutes seules. Alors moi, je suis un jardinier qui, de profession, mais je suis un peu paresseux, un peu malin aussi. Et j'ai repéré qu'il y avait des plantes qui se semaient toutes seules. Les rigérons, c'est pareil. C'est une petite marguerite blanche qui va repousser et se développer toute seule dans le jardin. Moi, j'aime beaucoup le pavot de Californie. Enfin, toutes ces plantes qui spontanément vont se ressemer toutes seules, parce que vous savez qu'il y a les plantes qui se ressèment et puis les plantes qu'on est obligé de replanter chaque année. Alors ça, c'est un peu plus contraignant, mais il y a des jardiniers passionnés de jardin qui sont férus de botanique et qui, eux, ont besoin effectivement de replanter chaque année des bulbes, des plantes annuelles, des plantes vivaces pour justement renouveler leur décor. Moi, je laisse un peu le décor s'installer avec justement ces plantes colonisatrices, en fait.
Alors, on va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant, on va poursuivre notre conversation. Vous allez nous donner plein de conseils. Moi, je pense aussi à ceux qui ont des balcons. Voilà, moi, par exemple, j'ai un balcon, j'aimerais bien en faire un jardin. Je vois pas pourquoi, parce que j'ai peu d'espace, je vois pas pourquoi je serais privée de fleurs. Et on va sortir, on va peut-être sortir de l'éternel géranium.
Hein. Ah, on va essayer.
On est d'accord,
alors,
vous allez nous donner plein de conseils.
Très bien.
On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL, vous l'avez compris, aujourd'hui, donc à Chaumont-sur-Loire, au domaine de Chaumont-sur-Loire, au Festival International des Jardins, on a décidé de mettre à l'honneur la nature et les fleurs. À tout de suite.
Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand.
RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous en ce samedi matin. Nous voilà bien qui se met au vert aujourd'hui. Nous sommes au domaine de Chaumont-sur-Loire pour le Festival International des Jardins. Si vous voulez vous en mettre plein la vue, plein les yeux et plein le cœur, n'hésitez pas à venir le visiter. Dans un instant, on va parler du potager parce que c'est toujours intéressant aussi. C'est toujours meilleur les légumes et les fruits quand on les fait soi-même. Et puis on parlera des fleurs comestibles avec Angèle Ferremac. Mais pour l'instant, on fleurit nos jardins et nos balcons. On danse, Pierre Nesman?
Allons-y.
Ah, vous dansez bien.
Allez, un balcon, une terrasse.
Mais oui, mais du moment qu'il y a des fleurs.
Absolument.
Et d'ailleurs, vous pourriez me dire, vous êtes une fleur vous-même.
Vous en faites partie.
Je vous remercie.
De ma panoplie, de ma gamme.
De votre gamme de fleurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique. Et puis, vous êtes diplômé de l'école d'horticulture de Genève. Donc, vous êtes notre meilleur pote en ce samedi matin pour justement fleurir nos jardins et fleurir nos balcons. Vous nous expliquez il y a un instant qu'en fait, ça se laisse vivre un jardin, hein. C'est, ça se laisse vivre et puis à un moment donné, c'est en observant la nature que finalement on va l'aider à se sublimer. Voilà,
on accompagne
un jardin.
Exactement.
Alors parfois aussi, les territoires sont un petit peu circonscrits. Je pense aux balcons, je pense à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas plusieurs centaines de mètres carrés de verdure autour d'eux. Qu'est-ce que je peux faire sur mon balcon à Paris?
Plein de choses. On peut faire plein de choses. Alors moi, ce que je conseille, ayant personnellement une petite terrasse, j'utilise des végétaux qui cumulent plusieurs attraits, c'est-à-dire des plantes qui vont fleurir fleurir, qui si possible vont sentir bon quand elles fleurissent, ah oui. Et surtout des plantes qui ont des feuillages décoratifs. Parce que ça, on n'en a pas parlé, on a parlé des fleurs, fleurir son jardin, c'est très bien, mais on a une gamme d'arbustes, de plantes qui ont des feuillages argentés, des feuillages panachés, des feuillages pourpres. Et ça, c'est très intéressant d'avoir ce complément à la floraison. Donc moi, ce que j'essaye de faire sur un balcon, une terrasse, c'est de mettre... Alors, on parlait du géranium, c'est très classique, le géranium. Mais vous savez qu'il y a des géraniums odorants, des géraniums qui sont des géraniums dont les feuilles vont des effluves, soit de pin, soit d'orange, soit de menthe. Et c'est intéressant parce qu'on a la floraison du géranium, mais on a aussi les effluves de ce feuillage. J'utilise également l'immortelle curry. L'immortelle curry, c'est une plante qu'on trouve dans la garrigue et qui sent le curry, qui a un très joli feuillage argenté et qui va avoir une petite floraison jaune. Donc j'essaye toujours d'avoir des plantes, c'est les plantes condimentaires, le thym, la lavande, la sauge, le romarin, toutes ces plantes ont à la fois un attrait décoratif pour leurs fleurs, mais aussi un attrait au niveau du feuillage et aussi au niveau du parfum. Donc c'est ce que je conseille sur une terrasse, c'est de concentrer les effets décoratifs, plutôt que d'avoir une plante avec une seule floraison ou une floraison, essayez d'avoir une plante avec une floraison, un beau feuillage et un feuillage qui sent bon.
Alors si on a justement cette base, je dirais, de verdure, comme vous savez, je pense aux salades composées, on a toujours la base de la salade, oui. Et puis après on peut rajouter plein de choses. Si je veux mettre des touches de couleurs fleuries avec des plantes annuelles, enfin c'est ça.
Alors voilà, c'est ça, les plantes annuelles, le terme c'est les fleurs de saison, effectivement, et on a dans les jardineries, chez les horticulteurs, toutes sortes de plantes qui sont très généreuses en matière de floraison. Donc vous avez votre trame verte, effectivement, et à partir de là, dans des pots ou dans des bacs, vous allez mettre des notes de couleurs. Vous avez le calibrachoa, vous avez les million bells, qui sont des sortes de tout petits pétunias, vous avez des verveines.
Ça sent bon, le pétunia.
Alors, il y a des jolies choses. Alors, traditionnellement, c'est un peu classique comme fleur, mais aujourd'hui, on a des jolies choses, des million bells, des calibrachoa, qui ont des toutes petites fleurs en cascade. C'est très élégant. Vous avez aussi les verveines, qui sont très intéressantes, le lantana également, qui sent bon et qui a une très jolie floraison. Donc, il y a une multitude comme ça de plantes extrêmement fleuries. Et moi, je vous conseille sur un balcon ou une terrasse, effectivement, de jouer par notes de couleur, par tâche, d'avoir un fond de verdure avec des arbustes, avec des feuillages, des plantes à feuillage, comme on l'évoquait tout à l'heure, et puis d'avoir de temps en temps des notes de couleur. Et comme on le disait tout à l'heure, au niveau des couleurs, si vous voulez donner un peu de chaleur à une terrasse, vous allez jouer avec du jaune, de l'orange et du rouge. Et au contraire, si vous avez une terrasse qui est très exposée à la chaleur, on va jouer plutôt sur les couleurs froides, on l'évoquait tout à l'heure, ce bleu, les mauves, les roses, qui vont apporter un peu de fraîcheur. Alors c'est pas physique, mais c'est perceptible au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, au niveau de la tête, et ça donne cette atmosphère un peu rafraîchissante.
Vous viendrez à la maison.
Je vais vous confier
mon balcon. Dernière question, est-ce que c'est plus compliqué d'entretenir un balcon qu'un jardin?
Oui.
Parce qu'on se dit que le jardin, il vit, il prend la pluie, enfin voilà.
Ouais, exactement, vous l'avez dit, il prend la pluie. Et surtout, il faut savoir que quand on est sur un balcon ou une terrasse, on cultive les végétaux dans des contenants. Mmh. Et le contenant, une fois que la plante a exploré la totalité du substrat, que ce soit en eau ou en éléments nutritifs, elle n'a plus de recours.
Moi, ça me fait
et
de la recours, peine parfois.
Ouais. Et le recours, c'est le jardinier. C'est-à-dire que c'est vraiment le jardinier qui doit avoir une attention, un état d'esprit de jardinier de ville, urbain ou de terrasse. C'est pas du tout la même chose qu'au jardin. Au jardin, une plante, quand elle a soif, elle développe des racines en profondeur, elle va chercher de l'eau. Sur un balcon, une terrasse, quand elle a soif et qu'elle a plus de substrat humide, c'est le jardinier qui doit l'arroser. Donc il y a une attention particulière, mais ça marche.
Vous avez un potager ?
J'ai des légumes dans des pots.
Ah.
Des légumes dans des pots, et j'ai pas le temps de m'occuper d'un potager, ça demande énormément de temps.
Justement.
Mais il y a des tas d'astuces pour avoir des légumes vivaces ou des petits légumes qu'on peut cultiver dans des pots.
Vous connaissez Thierry Lely ?
Très bien, c'est un confrère.
Eh bien justement, il nous rejoint sur cette antenne. Merci beaucoup Pierre Nesman, c'était passionnant de nous avoir parlé fleurs en ce samedi matin.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation.
Allô, Thierry Denis ?
Oui.
Bonjour Thierry Denis, merci d'être avec nous. Vous êtes pépiniériste dans le Morvan. Vous occupez de fleurs rustiques très rares. Vous êtes également chroniqueur au jardin RTL. C'est tous les dimanches à 7h45 dans RTL Weekend. Thierry Denis, j'ai des petits problèmes dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas ? C'est compliqué de créer un potager.
Non, c'est pas du tout compliqué. C'est, il faut juste un petit peu de méthode, un peu d'ordre, et puis le faire très régulièrement. Voilà. Hein. C'est un projet plaisir. C'est pas du tout une corvée. Alors, déjà, si on veut que ça se passe bien, il faut bien comprendre que les légumes, ça aime la chaleur. Voilà. Ça sert à rien d'être le premier du quartier à faire son potager alors qu'il fait un temps de cochon en mars. On attend très tranquillement que les choses se passent. Donc, dans mon potager, les patates, c'est pas avant avril, les tomates fin mai. Et là, en plein mois de juin, je suis tout content de semer mes récouverts, mes courgettes et de piquer mes salades.
D'accord, ok. Donc tout ça, c'est le moment. Mais ça demande combien de temps ? Alors, d'avoir un potager. Alors tout dépend de la taille, quoi, j'imagine.
Voilà. Oui, bien sûr, mais en tout cas, franchement, moins que de s'aboutir devant la télévision. Ok. Bon, oui, il y a du boulot pour les gros chantiers, bêcher en automne, buter les patates ou s'occuper de ses tomates. Mais sinon, on y passerait un quart d'heure par jour, ce serait déjà pas si mal. Un petit potager, ça demande de la régularité, pas beaucoup de temps. Biner ses salades, si on le fait souvent, c'est l'affaire de 5 minutes.
Ok, d'accord. Mais avant de biner mes salades, il faut quand même qu'à un moment donné, je le crée, mon potager. quelle est la surface minimum d'un potager ?
Ah bon, alors, si vous voulez faire des choux et des patates, on va vite tourner autour de 100 mètres carrés. Hein. Mais plus simplement, que pour commencer, puis si on a un petit jardin seulement, une bande d'un mètre cinquante de large sur 10 mètres de long, ça me paraît bien suffisant pour faire des tomates, des petites salades à couper, un pied de courgette et des petites carottes. Hein. Ça fait déjà des belles récoltes.
Hein. Mais on l'installe où dans le jardin ? J'imagine qu'il y a des places un peu stratégiques, non, pour faire un potager ?
Alors, tout dépend. Si on a une maison ancienne ou si c'est une maison nouvelle. Voilà.
Ah bon ?
J'ai une maison ancienne. Je ne me complique pas la vie, je fais le potager là où il était avant. Nos ancêtres étaient compétents, ils savaient où les légumes étaient heureux de pousser. Bon, si j'ai une maison nouvelle, où il n'y a jamais eu de potager, là c'est différent. Et bien la sagesse, je vais me faire conseiller par un vieux papy du coin qui a un beau potager. Alors le papy, en gros, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me dire que bah, plus il y a profond de terre, mieux c'est, ça c'est une évidence. Et puis il va me dire aussi qu'il faut du soleil, mais pas nécessairement brûlant partout, parce qu'une partie du potager est au frais pendant les heures les plus chaudes, c'est bien pratique pour ses salades. Et puis surtout, le papy, il va bien faire comprendre qu'un potager, ça ne doit pas être trop près des arbres. La concurrence des racines des arbres et des grandes haies, c'est mauvais, ça pompe tout, les légumes sont rachitiques, c'est pas sous le cerisier qu'on aura de bons choux.
D'accord, très bien. Alors, vous restez avec nous, Thierry, parce qu'on a encore évidemment plein de questions à vous poser, mais ce que l'on sait, c'est qu'il faut se tourner vers les vieux sages. Et vous avez bien raison. Vous êtes un peu notre vieux sage du matin, donc c'est super. On vous garde et on vous retrouve tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Nous voilà bien. Flavie Flamand.
Bonfevert.fr.
Jusqu'à 10h sur RTL.
Flavie Flamand, nous voilà bien.
Nous voilà bien sur RTL, merci d'être avec nous jusqu'à 10h. Dans un instant, on va faire de la cuisine avec des fleurs comestibles. C'est Angèle Ferrema qui nous donnera des recettes restées à notre écoute. Il y a un instant, Pierre Nesman nous emmenait dans la poésie de nos jardins et de nos balcons fleuris. Mais pour l'heure, on est au potager avec Thierry Denis.
Et puis un jour, sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots.
Ah, c'est beau, voilà, le potager chanté par Bourville. On voit pousser les haricots. Et dites-moi, Thierry Denis, en fait, il y a plusieurs types de potagers.
Oui, alors, en résumant, en France du moins, je vais un peu caricaturer, il y a le potager traditionnel, celui qui existait déjà du temps des Gaulois, et puis il y a le potager moderne, façon permaculture, c'est celui qu'aiment bien les médias. Hein. Alors, le potager traditionnel, c'est quoi ? Un carré de terre, bêché tous les ans, nourri au fumier, on cultive les légumes en ligne toute droite, les fleurs aussi, pour faire des bouquets. L'outil de base, c'est la binette. Un binage, ça vaut deux arrosages. Bon, c'est assez efficace, même très efficace, c'est facile d'entretien, et en plus, moi, je trouve ça très beau. Alors, après le potager tradi, il y a le potager façon permaculture. Alors, en gros, en résumant beaucoup, c'est quoi ? On ne bêche plus, le sol est recouvert de paillis, on préfère la spirale à la ligne droite, on mélange les légumes un peu dans tous les sens, et surtout, on cultive en butte, pas à plat. Bon. Alors là-dedans, il y a des bonnes idées, cultiver en butte, moi je trouve que c'est top, quand la terre est lourde et humide en hiver, je l'ai très longtemps fait. Bon, ne pas laisser le sol nu, aussi, c'est une bonne idée, parce que la vie du sol est plus riche dessous, moi je paille toujours mes pieds de tomates. Mais ceci dit, à gérer ces potagers modernes, permaculture, c'est pas si simple toujours, parce que le paillis c'est un HLM à limaces, donc c'est pas bien bon pour les salades. Les buttes et les spirales, ça demande du temps. Mélanger les légumes, parfois ça se termine en gros fouillis. Et moi, je connais de très très beaux jardins en permaculture qui sont célèbres, mais qui demandent un sacré boulot.
Et dites-moi, vous nous parlez de la binette là depuis le début quand même de cette interview. Et il me faut autre chose pour m'occuper de mon potager qu'une binette ?
Oui, alors il faut des choses qui sont très simples et qui coûtent en plus pas bien cher. Bon, il y a 5 fondamentaux à parler.
De l'huile de coude.
Alors, l'huile de coude, ça c'est indispensable. Mais sinon, une bêche. Alors, une bêche à dents, vous savez, c'est comme une fourche, mais avec des dents plus larges. Alors, surtout, surtout, il faut lâcher la plus petite possible, c'est moins fatigant. Alors après, indispensable, outil magique, le râteau. Ça permet d'égaliser et d'émietter la terre. Et le bout du manche, en plus, peut servir à tracer les sillons de semis. Dernier outil, vraiment pas cher non plus, un plantoir pour repiquer les plants de légumes. Et puis, on s'en doute un peu, il faut un arrosoir.
Oui, bah oui, oui. Bon, donc on n'a pas besoin de grand-chose en fait, en réalité, on l'aura compris. Et effectivement, c'est à la portée de toutes les bourses. Deux questions, les légumes les plus faciles à cultiver quand on débute?
Alors, les plus faciles et les plus gratifiants, les tomates. À condition qu'on ait compris qu'il faut attendre qu'il fasse très chaud pour les planter et qu'on ne mouille jamais les feuilles. Autre légume très facile, encore plus facile, le légume minute, c'est la courgette. C'est hyper rapide, c'est facile à semer, même maintenant. Et là encore, on fera attention à ne pas mouiller le feuillage. Bon, après, moi je conseille toujours carotte et radis. Carotte et radis en mélange. Parce que comme ça, la carotte qui met très longtemps pour germer, elle va prendre son temps. Mais le radis est très rapide. Alors le radis, on le récoltera avant, sur le même rang, et après, on récoltera la carotte. Alors, les carottes, choisissez des bonnes. Les carottes nantaises, c'est exquis. Puis, bien entendu, il va falloir faire des salades. Alors, en été, au potager, faites attention, parce que les salades, parfois, elles n'aiment pas trop les excès de chaleur. Alors, moi, je conseille la Batavia. Elle est délicieuse, elle tient bien à la chaleur, et puis, quand on n'est pas le dieu du semis, on peut même en acheter des jeunes plants tout faits, bons à repiquer dans les jardineries.
Très bien. En ville, sur mon balcon, parce que maintenant je sais comment fleurir mon balcon grâce à Pierre Nesman, mais si je veux faire pousser 2-3 fruits et légumes, qu'est-ce que je peux faire?
Alors, moi j'ai habité dans une chambre de bonne à Paris, île de la Cité, de 9 mètres carrés, et c'était même pas un balcon, c'était une espèce de gouttière. Alors, et je me suis bien amusé, dans des toutes petites jardinières, avec quoi? Déjà, le radis des 18 jours. Le radis de 18 jours, c'est un petit radis qu'on peut se mettre très tôt, et qu'on pourra se mettre tout le temps dans l'année, on le récolte au bout de 18 jours. Ça, c'est génial. Dans une petite jardinière standard, ça marche très bien. J'ai fait aussi beaucoup de petites carottes en choisissant les petites carottes qui ont des formes de boules. Ça fait des toutes petites carottes bien rondes. Et ça, là encore, dans une jardinière, ça passe très bien. Incontournable, le persil qui pousse partout. Alors, les tomates, bien sûr, enfin, et surtout maintenant, qu'on a la chance d'avoir des variétés de tomates cerises naines.
Non, mais la cerise naine, ça doit être absolument rikiki.
Oh ben elle est quand même gros comme un gros calot de billes. Hein. Non, c'est surtout, elle est sucrée. Voilà, parce qu'on peut vraiment bien s'amuser, même pas avec un balcon, je vous dis, un rebord de gouttière.
Eh bien, merci pour tous ces conseils. C'était super intéressant, Thierry Denis. On vous retrouve demain matin, hein, à 7h45. Vous êtes matinale, vous, hein, dans RTL Parfait. Weekend. Merci
tous les
beaucoup, je vous
matinaux.
Oui, bah, c'est ce que je constate, effectivement. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas de jardin. Allez, je vous embrasse, Thierry Denis. Merci, à bientôt sur RTL. Mangez-moi. Allez, c'est l'heure d'accueillir une fleur parmi les fleurs. Bonjour Angèle Ferremacht. Ça vous fait rire, hein?
Oui, ça me fait rire, c'est vraiment toujours trop sympa les présentations avec vous.
Vous êtes chef et créatrice de la guinguette d'Angèle, on adore. Vous êtes naturopathe, auteur de livres dont on parlera tout à l'heure. Bon, et dites donc, on peut mettre des fleurs quand même dans sa cuisine, c'est ça qui est génial. Ça s'est vraiment démocratisé dans nos assiettes ou ça reste quelque chose de rare?
Alors, c'est vrai que pas tout à fait, on n'en voit pas non plus partout, non. Ça peut faire un peu prout-prout, grand chef. Mais en même temps, en fait, les grands-mères de nos campagnes ont toujours mis des pétales de fleurs de soucis ou de pissenlit dans les salades, fait des tisanes de fleurs de bruyère, de bluet, de lavande. C'est pas si courant, mais ça ajoute tellement de poésie à un plat et ça vaut vraiment le coup de se prêter au jeu. Quand on met une petite fleur de pensée sur un gâteau et qu'on le donne à Flavie, ça veut quand même dire qu'on douce pensée pour vous.
Ah, c'est gentil. Oui, donc c'est le fameux langage des fleurs qui peut s'appliquer aussi à la cuisine. Moi, j'ai eu cette chance de pouvoir goûter vos plats à la guinguette. C'est vrai que vous y mettez des fleurs et il y a quelque chose qui m'a surprise, c'est que ça participe au goût d'un plat.
Oui, c'est vrai. Alors, bien sûr, elles sont surtout utilisées pour la déco, mais elles peuvent aussi vraiment apporter des saveurs. Ouais. Par exemple, la fleur de capucine peut remplacer le poivre. Elle a un goût vraiment poivré. La fleur de bourrache a un léger goût d'huître. Toutes les fleurs ont le goût, en fait, de leur plante. Donc, par exemple, la fleur d'ail et d'oignon sont plus légères et délicates que le bulbe, mais on retrouve quand même le goût. La fleur de verveine a le goût des feuilles, mais une texture en bouche beaucoup plus agréable. Et aussi, elles contiennent les bienfaits des plantes. Donc, c'est moins concentré, mais quand même. Par exemple, la vitamine A et C pour les fleurs de basilic, les oméga 6 pour la fleur de bourrache, la fleur de thym et de romarin sont antiseptiques. Donc, ce ne sont pas que des belles plantes.
Alors, il faut que ce soit des fleurs comestibles. Vous étiez à notre écoute, évidemment, Angèle Ferremacht, et en début d'émission, on recevait Pierre Nesman qui est toujours avec nous. Pierre, en fait, je ne peux pas aller, je peux pas croquer mon pétunia de mon balcon, par exemple.
Il faut s'assurer, effectivement, voilà, que ce soit comestible avant. Il y a effectivement toute une littérature et on trouve beaucoup sur internet de plantes qui sont comestibles, parce qu'effectivement il peut y avoir des plantes toxiques, ou en tout cas la sève est toxique, et là il faut faire attention. Puis après il y a des goûts un peu plus âpres, un peu moins intéressants en cuisine.
D'accord. Donc il faut faire attention, c'est ça qu'on va faire passer aussi comme message, Angèle.
Oui, il faut faire bien attention. Et en plus, certaines fleurs comme la ciguë ressemble à la carotte, enfin la fleur de laurier, la datura, les aconites sont super toxiques. Donc je conseille de se renseigner, un peu comme les champignons en fait.
D'accord. Les fleurs légumes, en fait, enfin, je pense aux fleurs légumes. On parlait tout à l'heure des courgettes. La fleur de courgette, elle est comestible comme le fruit.
Oui, délicieuse. Les beignets de fleurs de courgette, c'est un délice. En fait, il existe en effet plusieurs types de différents types de fleurs. Il y a les fleurs condiments comme la coriandre, la sauge, le thym, les fleurs fruits qui deviennent en fait les fruits après avoir été pollinisés, comme la fleur d'oranger. Les glantiers. Et puis les fleurs légumes, donc dont on parle, comme dont on consomme les inflorescences, comme le chou-fleur, le brocoli. Et l'artichaut aussi, dont on consomme les capitules, qui sont des légumes fleurs.
Alors, on va se retrouver dans un instant, Angèle Ferremacht, parce que vous allez nous donner des recettes, parce que c'est bien beau de nous dire on peut mettre des fleurs dans notre cuisine, mais alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Quelles fleurs pour quelle place? Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
En pays d'Oc.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Je sais que vous l'attendez, c'est bientôt l'heure de la recette. Angèle Ferremacht est avec nous, elle nous parle des fleurs comestibles. J'ai l'impression de me faire engueuler à chaque fois que j'entends ça. Soyez les bienvenus. C'est vous, Angèle Ferremacht, qui êtes notre invitée en cette fin d'émission. Vous venez de nous expliquer à quel point, effectivement, les fleurs peuvent sublimer, je dirais, nos repas, notre cuisine, pas seulement pour la décoration, mais aussi en termes de goût. Et ça, c'est formidable. Elles se consomment crues uniquement, les fleurs comestibles?
Non, pas forcément. On peut aussi les trouver, on peut les consommer infusées à chaud, par exemple, comme les sirops de bourrache au miel, ou de fleurs de coquelicot, ou à froid, comme les infusions de vin de fleurs de sureau, en fait. Mais aussi, alors, à la vapeur, par exemple, un bouton de fleur de tournesol à la vapeur, avec une bonne noix de beurre cru, une pincée de sel, et les petits pétales et les graines dessus, c'est un délice. Et puis surtout frites, comme les fameux beignets de fleurs de courgette dont on parlait tout à l'heure. Mais on peut aussi les inclure dans les plats, comme par exemple... une crème brûlée à la lavande, c'est délicieux.
Ah oui, ça, on avait eu l'occasion de la goûter déjà, votre crème brûlée à la lavande. Alors, vous êtes venue avec d'autres recettes, mais avant de nous les donner, où est-ce qu'on peut les trouver, les fleurs comestibles, en fait, Angèle?
Alors, on peut les faire pousser sur son balcon. On les trouve évidemment dans les épiceries haut de gamme. On peut aussi les cueillir dans la nature en faisant bien attention, comme on a dit, pas près des champs cultivés, pas près de l'autoroute, et pas trop basse pour éviter l'urine des animaux qui peut véhiculer des maladies. Donc, on les prend en hauteur quand on les glane dans la nature.
D'accord. Et évidemment, avec prudence, et on vérifie que les plantes et les fleurs que l'on prend sont bien comestibles. Bon, allez, en avant Guingamp, on part pour les recettes. Pesto fleurs d'ail.
Mais oui, c'est délicieux. Donc, pour ce petit pesto, on va prendre autant de fleurs d'ail que d'huile d'olive. Les fleurs d'ail, on les prend avec les tiges, qui ont aussi super bon goût. Et donc, on va le mixer, ou dans un mixeur ou dans un mortier. On va mélanger doucement jusqu'à ce que le mélange soit homogène, et on va rajouter un filet de citron, un petit peu de sel. C'est délicieux. On peut le mettre, vous savez, dans les bacs à glaçons, dans les petits bacs à glaçons pour mettre son petit glaçon de pesto de fleurs dans un gaspacho de chaud, par exemple, mais aussi ça peut remplacer le beurre d'ail à tartiner sur le pain, on peut l'ajouter aux sauces, dans les soupes, enfin c'est vraiment une super astuce. Mais je voulais aussi vous proposer une salade délicieuse de tomates aux fleurs de basilic. Alors moi, ce que j'adore, c'est manger les tomates sans la peau. Donc, c'est assez facile. On fait une petite croix avec la pointe du couteau. On les ébouillante pour ôter la peau facilement. Et là, votre salade va prendre un niveau supérieur. Donc, évidemment, si on peut, on choisit des belles tomates françaises, de la variété de votre choix. On en a tellement en France, la noire de Crimée, la Saint-Vincent, l'ananas, la Green Zebra, enfin, comme vous voulez. On les coupe toutes nues, donc en cubes. On les dépose dans un saladier. Alors, ça, c'est une petite astuce beauté de la table. Je vous conseille des saladiers très plats. En fait, c'est toujours plus joli. C'est plus ça joli. Augmente à notre surface de présentation des fleurs. Et en plus, ça évite aux tomates de s'abîmer en se collant trop. Donc ensuite, on ajoute des oignons finement coupés, quelques olives noires, un filet de vinaigre de cidre, une bonne huile d'olive. On parsème de nos fleurs de basilic, rose ou blanche. Et là, c'est aussi bon que beau. C'est un vrai délice. Alors moi, je vous conseille de le manger avec un bon pain chaud parce que l'eau de cette sauce tomate, c'est vraiment la des meilleures choses au monde.
Eh ben tout ça, ça nous donne envie, évidemment, Angèle Ferremac. Et puis les recettes que vous nous avez données, on va les retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, de Nous Voilà Bien, sur notre page Facebook. Vous savez ce qu'on se fait maintenant, Angèle ?
Des bisous !
Ouais, on se fait des bisous. Merci beaucoup, Angèle Ferremac. Je rappelle donc la guinguette d'Angèle. Il y a l'ouverture d'ailleurs d'une nouvelle guinguette à Paris. C'est 7 rue Cadet dans le 9e arrondissement et c'est délicieux. Je rappelle également vos livres Délicieusement Green aux éditions Marabout et Eau et Infusion Détox aux éditions Marabout aussi. Je vous embrasse, ma petite courgette. À bientôt.
Merci,
prenez soin de vous. Salut, Angèle. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Nous voilà bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du Festival International des Jardins à Chaumont-sur-Loire pour leur accueil chaleureux. Venez visiter ce fabuleux domaine, écrin d'une poésie naturelle à couper le souffle. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, eh bien, vous le savez, pas de panique. Séance de rattrapage en replay sur RTL.fr et en podcast sur les plateformes dédiées. Et les recettes, je vous le disais, on les retrouve sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous lundi à 14h30 en direct pour On est fait pour s'entendre. C'est votre magazine du partage et de la réflexion. Et puis samedi prochain, 9h15 pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Je vous souhaite un excellent week-end fleuri à l'écoute d'RTL. Prenez soin de vous, je vous embrasse.